Paul n'a pas été vexé, au contraire. Il a loué ces chrétiens libérés. Il a vu que c'est ceux-là qui seront des chrétiens fermes et qui ne seront pas séduits facilement par les autres. Amen. Sixième, 7:51, chapitre 7, verset 51. Nous voyons là une sixième qualité. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Oui, 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 ça commence à chauffer. Hein? Aujourd'hui, on dirait à quelqu'un qui parle comme ça, il manque d'amour. Et il juge les autres. N'est-ce pas vrai? Exactement ça. Même les prédicateurs, ils vous disent ça. Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne fait pas des choses comme ça. Pas du tout. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit qu'il parlait comme ça. Alors, ce que vous, vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et que vous ne l'avez point gardée. Alors, sixième qualité d'une personne remplie du Saint-Esprit, sixième plénitude, Étienne était plein de courage. Amen. Il fallait bien avec les époux, c'est parce qu'ils n'ont pas su avant ce qu'il fallait faire. Ils ont dit, je ne suis pas marié, ce n'est pas pour moi. Non, c'est une erreur. S'il y a un domaine où nous devons nous préparer, c'est bien dans ce domaine-là. Et le manque de préparation pour le mariage est une très grave erreur. Et la cause de beaucoup d'échecs dans beaucoup de familles, n'est-ce pas vrai? C'est maintenant, toi jeune homme, jeune fille, c'est maintenant qu'il faut te préparer. C'est maintenant qu'il faut savoir ce que chaque époux doit connaître pour fonder un foyer solide et heureux. Alléluia. Il est encore possible d'être heureux dans la famille. Peut-être qu'il y a aussi au milieu de nous des personnes qui ont déjà leur foyer brisé. N'est-ce pas? Dieu est un Dieu de grâce. Quelle que soit votre situation, réalisez une chose, que la grâce de Dieu est encore là, mais que Dieu est aussi un Dieu des miracles. Alléluia. Il peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Ce que l'homme a défait, Dieu peut le construire. Ce que le diable a détruit, Dieu peut le ressusciter. Alléluia. Ainsi, que le Seigneur bénisse ces paroles maintenant qui nous concernent tous. Et pour cela, nous allons lire deux passages dans les Écritures de l'apôtre Paul et ensuite de l'apôtre Pierre. Voyons ce que l'apôtre Paul dit. C'est un passage qui est bien connu dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Versets 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un deuxième passage dans l'Épître de Pierre, 1er Épître de Pierre, chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Le mot faible est mal traduit ici. Plus fragile et plus délicat, c'est le mot le plus juste. Plus fragile et plus délicat. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, qu'il y ait des bons rapports entre le mari et sa femme, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ceci est très important. Bien souvent, lorsque les conjoints, les époux ont des problèmes et que ça ne va pas, jamais on se pose la question, est-ce que Dieu ne répond pas à nos prières parce que ça ne va pas très bien entre nous? Est-ce que ce ne serait pas pour cela? Bien souvent, nous disons, oh, c'est la faute du frère, de la sœur, du voisin, du pasteur. Et nous disons, il ne comprend rien, ils ne comprennent rien du tout. Mais nous ne réalisons pas que les premiers responsables, c'est nous, c'est l'époux, c'est l'épouse. Il faut d'abord commencer à la maison. Si à la maison, il y a une bonne attitude entre les conjoints, peu importe l'attitude négative des personnes en dehors de la famille. Cela est regrettable, c'est vrai. Mais s'il y a de bons rapports entre les conjoints, ces époux supporteront tout. Alléluia. Quelles que soient les actions et les réactions de ceux de l'extérieur. C'est pourquoi il est important que les époux trouvent et recherchent cette unité que Dieu leur demande. Gloire à son nom. Et j'aimerais donc vous donner quatre choses que les époux doivent savoir, ce que chaque époux doit connaître. Il y a beaucoup de choses à savoir, n'est-ce pas? Mais en tout cas, quatre vérités importantes. La première vérité est celle-ci. Ils doivent manifester un esprit de maturité. Les époux doivent manifester un esprit de maturité. Toute notre vie jusqu'au jour du mariage, comment est-ce que nous avons vécu bien souvent? Nous avons vécu pour nous-mêmes en tant que célibataires. On a tout fait pour nous-mêmes, n'est-ce pas? On a notre vie tournée autour de nous-mêmes. Bien que, bien sûr, nous fassions du bien aux autres, tout cela, n'est-ce pas? Cela est normal. Mais quand même, étant célibataire, eh bien, on prenait nos décisions nous-mêmes. On faisait ce qu'on voulait quand il y avait quelque chose à faire. Oui, on n'a pas besoin de le demander à quelqu'un d'autre. On fait ce qu'on veut, on va où on veut, on mange ce qu'on veut, on fait un peu tout comme on veut. Mais lorsque le mariage arrive, on réalise que si on continue de vivre comme cela, alors il y a des tensions, des frictions, des chocs et même de temps en temps des électrochocs. Et nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous posez la question, ou si vous posez la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu te maries? Selon les réponses que vous aurez, vous verrez si la personne est mûre ou pas. Si elle s'est mariée dans de bonnes conditions ou pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut être parfait, pas du tout, parce qu'on ne le sera jamais. Mais quand même, il y a un minimum de maturité. Mais posez des questions. Pourquoi est-ce que tu t'es marié? Ah, moi, je me suis marié parce que à la maison, ça n'allait pas du tout. Vous voyez, voilà une raison. Ça ne va pas à la maison. Ouais. Une autre raison. Ouh, j'en ai assez d'être avec les parents et faire toujours leur petite volonté. J'en ai assez. Alors, je vais me marier. Et les autres se marient. Oh, il y a mes copains et mes copines qui sont tous mariés. J'ai l'air vraiment drôle au milieu d'eux. Je passe pour quelqu'un de drôle et de bizarre. C'est pas possible, il faut que je me marie. Puisque tous sont mariés maintenant, je vais quand même pas rester un vieux garçon ou une vieille fille. Et puis l'autre se marie parce que... Ah, moi je me marie parce que je veux qu'on m'aime. Parce que j'ai besoin d'amour. Il y a une part de vérité dans tout cela, n'est-ce pas vrai? Mais écoutez-moi, vous dites, écoutez-moi bien. Toutes ces réponses révèlent quelque chose. L'immaturité de la personne qui veut se marier. Cette personne recherche finalement quoi dans le mariage ou dans son conjoint? Quelqu'un qui va vraiment pourvoir à tous ses besoins. C'est quelqu'un qui se marie pour être heureux. Mais savez-vous qu'on ne se marie pas pour être heureux? Dites-moi, c'est pas possible. Première fois que j'entends quelque chose comme ça. On ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre le conjoint heureux. Ça, c'est le signe d'une maturité. Et ceci est vital. Pourquoi tant de problèmes? C'est parce que chaque conjoint cherche à faire sa propre volonté. On utilise l'autre pour satisfaire nos propres besoins. Alors ça va un temps. Au début, voyez-vous, c'est tout est beau, tout est rose. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte que ça ne va plus tellement. Et c'est pourquoi les problèmes commencent. Donc, les époux doivent savoir une chose, c'est que si on se marie, il faut une certaine mesure de maturité et dire que si je me marie, c'est avant tout pour rendre mon époux ou mon épouse heureux. C'est là la pensée dominante. Que chacun de vous, Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, Philippiens 2:5, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. À combien plus forte raison cela est valable dans la famille, entre les époux. Mes chers amis, la plupart de vos problèmes commencent là. Et l'immaturité révèle le caractère d'un enfant qui veut toujours que les choses se fassent comme il veut, n'est-ce pas vrai? Si tu ne fais pas comme je veux, eh bien, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Tu sais, ça n'ira pas du tout. Il faut que ça marche comme je veux. C'est là la tragédie dans beaucoup, beaucoup de foyers aujourd'hui. Mais si nous voulons que quelque chose change, il faut d'abord que ce soit nous qui changions. Si tu veux que quelque chose change dans ton foyer, n'attends pas que ton époux, que ton épouse change. C'est toi qui dois changer. Et ne fais rien surtout pour changer ton conjoint. Mais fais tout pour changer toi-même. Et lorsque nous changeons, alors, nos attitudes, notre comportement changera et aidera l'autre. Il y a une chose que les époux doivent comprendre et accepter une fois pour toutes dans leur vie de couple, c'est qu'ils ne pourront jamais changer leur conjoint. Toute tentative pour changer son conjoint sera inutile, sera vaine. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Il n'y a que Dieu qui peut le changer. N'est-ce pas vrai? Ce que Dieu vous demande, c'est de l'aimer. Et c'est lui qui change les cœurs. Gloire au Seigneur. Mais tu ne peux pas changer ton conjoint. Mais par la grâce de Dieu, Dieu peut te changer. Et s'il te change, alors, il y a un espoir de changement dans ton foyer, mais tu dois manifester un esprit de maturité. Tu dois dire maintenant, à partir de maintenant, Je comprends pourquoi ça ne va pas. J'ai toujours fait ce que je voulais. Je n'ai jamais cherché vraiment à servir mon conjoint, à penser d'abord à ses intérêts au lieu de penser aux miens. Jamais cela ne m'est venu à l'esprit. Mais savez-vous que dans beaucoup de foyers, il en est ainsi. Chacun reste sur ses positions. L'autre doit changer. Mais on ne pense pas que on doit faire en sorte que si l'on demande de l'amour, si vous attendez de l'amour de votre conjoint, que faut-il faire? Il faut attendre l'amour? Vous risquez d'attendre longtemps. Si vous voulez, si vous attendez de l'amour de votre conjoint, il faut être aimable soi-même. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à votre conjoint que vous ne lui donnez pas. Vous recevrez quelque chose de votre conjoint dans la mesure où vous donnez déjà ce que vous réclamez. Jésus n'a jamais demandé quelque chose de nous avant qu'il nous l'ait communiqué. Amen. Jamais. Il n'a jamais rien demandé, il a d'abord donné. Et ensuite, devant cet exemple merveilleux, on est inspiré, n'est-ce pas? Et alors, on peut faire quelque chose. Mais vous ne pouvez rien exiger à votre conjoint que vous ne donnez d'abord premièrement. Sinon, nous sommes comme des pharisiens, nous sommes des hypocrites, nous exigeons quelque chose de l'autre, mais nous-mêmes, nous ne faisons rien pour premièrement manifester ce que nous demandons. Veux-tu de l'amour de la part de ton conjoint? Eh bien, comment cela se passe-t-il? Sois aimable toi-même, manifeste toi-même de l'amour, et l'amour engendre l'amour. Alléluia. Mais l'égoïsme engendre aussi l'égoïsme, et vous n'en sortez jamais. Donc, un esprit de maturité. Seigneur, à partir de maintenant, je veux cesser de tourner autour de mes désirs personnels. Tu m'as donné ce conjoint, Seigneur, pour que je prenne soin de lui et que ses intérêts passent avant les miens. Seigneur, je veux faire cela. Le mariage n'est pas moitié-moitié ou 50%, 50%, comme on le dit un peu dans le monde. Moitié-moitié, chacun fait un peu ça. Non, non, le mariage devant Dieu, c'est 100%. On doit se donner non pas 50% et l'autre 50%, mais chacun doit se donner à 100%. Un esprit de maturité. Et comment vaincre cette maturité? Comment, je veux dire, apporter cette maturité? C'est en triomphant de l'égoïsme. En somme, pourquoi est-ce qu'on ne manifeste pas cet esprit-là? Parce qu'on est égoïste. Et écoutez-moi bien. Nous ne serons vraiment délivrés de cet égoïsme que lorsque nous réalisons que l'égoïsme est un péché. L'égoïsme est un péché. Ah bon? Ah bon? Comment ça, c'est vrai? Tant que nous ne réalisons pas que l'égoïsme est un péché, alors nous ne changerons pas. Et nous continuerons de rester la même personne. Et il y a aussi un autre point pour être délivré de cet égoïsme. Il faut savoir s'excuser lorsqu'on manifeste cet égoïsme. Il faut savoir dire à son conjoint, excuse-moi, là j'ai été égoïste. Et vous savez, demander pardon, c'est plus difficile que de manifester un esprit d'égoïsme parfois. Et alors, vous allez vous dire, oh là là, mais si je dois chaque fois demander pardon lorsque je manifeste un peu d'égoïsme, il vaut mieux que je ne sois plus égoïste. Parce que c'est très difficile de demander pardon à sa femme ou à son mari. Et quand vous prenez la décision de dire, il faut qu'à tout prix, je sache m'excuser lorsque je suis égoïste, eh bien, vous allez réfléchir deux fois. Vous n'allez pas continuer la même chose éternellement. Ah, vous savez que lorsque quelque chose ne va pas, vous allez demander pardon. Ça, c'est difficile. Ah oui, c'est bien. Il faut que ce soit difficile. Il faut que tu réalises que, eh bien, tu ne peux plus garder continuellement cet esprit d'égoïsme et que tu dois t'excuser lorsque tu l'as fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un esprit de maturité. Deuxièmement, les époux doivent connaître autre chose. Ils doivent connaître leur rôle respectif. Il y a là un point capital. Là encore, la plupart des problèmes dans un foyer proviennent de ceci. On ne connaît pas son rôle dans le foyer. Aujourd'hui, on dit dans le monde, on est égaux dans le foyer, n'est-ce pas? Chacun fait comme il veut. Hein? Il n'y en a pas un qui doit diriger l'autre. Il n'y en a pas un qui doit commander l'autre. Il n'y en a pas un qui doit être soumis à l'autre. Non, 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 oh là là, ça c'est de l'esclavage, ça. Oh! Et alors, on est là, tout le monde a des... On est tous au même niveau et on a le même rôle. Voilà ce que l'on dit finalement. On a tous le même rôle dans la famille. C'est là une grave erreur. La parole de Dieu ne dit pas cela. La parole de Dieu dit une chose, et j'aimerais bien préciser là-dessus, que devant Dieu, hommes et femmes sont égaux. Ça, c'est vrai. Nous sommes égaux devant Dieu, mais nous avons des rôles différents. Et c'est là un point très important. Devant Dieu, il n'y a pas un homme supérieur et une femme inférieure. Cela n'existe pas. C'est pourquoi l'Évangile vraiment libère l'homme et libère la femme dans ce sens-là. Il n'y a pas de supériorité et d'infériorité. Mais il y a une égalité, mais avec des rôles différents. Et connais-tu ton rôle? Quel est le rôle du mari? Et quel est le rôle de la femme? Vous savez, quand on ne connaît pas ces choses, eh bien, il y a comme une décadence dans ce domaine-là. Au début du siècle, c'était l'homme qui dominait sa femme. Il y a quelques années, peut-être encore maintenant, c'est la femme qui domine l'homme. On vit largement dans une société où la femme domine l'homme, vous êtes d'accord avec moi? Il faut voir les choses comme elles sont. Bien sûr, on ne peut pas tout généraliser, mais la pensée est là. Mais dans les années qui viennent, c'est ni l'homme ni la femme qui vont se commander l'un l'autre ou se dominer l'un l'autre. C'est les enfants qui dominent les parents. Et nous y sommes déjà, n'est-ce pas vrai? La parole de Dieu dit que les enfants doivent être obéissants à leurs parents. Mais dans le monde, c'est « parents, soyez obéissants à vos enfants ». Voilà comment certains parents comprennent les choses. « Parents, soyez obéissants à vos enfants ». Voilà où nous en arrivons lorsque nous ne connaissons pas nos rôles, n'est-ce pas vrai? Alors, quel est le véritable rôle? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais deux pensées donc importantes. Premièrement, le mari est le chef du foyer. Et le mot « chef » ne veut pas dire un capitaine ou un patron ou un commandant, mais le mot « chef » veut dire tout simplement celui qui est responsable dans le foyer, devant Dieu, et un vrai responsable, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui donne l'exemple. Voilà le rôle de l'homme dans le foyer. Il est le responsable. Et pour s'acquitter convenablement de cette responsabilité, il doit donner l'exemple. C'est par l'exemple qu'il dirige bien sa maison. Non pas par des ordres et des contre-ordres. C'est pourquoi il y a tant de désordres. Ah oui. On donne un ordre, 5 minutes après, il y a le contre-ordre, et puis après, voyez-vous, c'est le... Non, l'homme dirige sa maison en donnant l'exemple. Et c'est là quelque chose de difficile, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi le mari a une grande tâche. Et il doit réaliser cette tâche devant Dieu, premièrement. Il est le chef de sa femme, c'est-à-dire que Dieu lui demande d'être le responsable. Il est le premier responsable. Vous savez, dans une usine, quand il y a deux têtes, vous croyez que ça marche? Quand il y a deux têtes, alors au bout d'un certain temps, c'est la faillite, c'est la banqueroute, ça ne va plus du tout. C'est la division et ensuite, c'est la catastrophe. Quand il y a deux têtes qui gouvernent, eh bien, on ne gouverne pas longtemps. Il en est de même dans le foyer. Il faut qu'une personne soit responsable. Cela ne veut pas dire que l'autre ne doit pas être là pour, parfois, aussi prendre des décisions. Mais lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a tension, la décision finale appartient au mari. Si l'on ne comprend pas cela, il y aura toujours des histoires, n'est-ce pas vrai? Donc, le mari est le chef de la femme. Autrement dit, il est le premier responsable. Et le mari, on l'a lu, c'est quelqu'un qui doit aimer sa femme. Aimer sa femme. Mais on en parlera tout à l'heure de cela. Et quel est le rôle de la femme maintenant? Nous l'avons lu. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Le rôle de la femme est donc un rôle de soumission. Laissez-moi vous dire, chers amis et chères sœurs, que cela ne veut pas dire être inférieur ou être esclave de son mari, pas du tout. Être soumise, cela veut dire tout simplement que, eh bien, il n'y a qu'une tête dans la maison et que la femme doit se soumettre à cet ordre divin. Il y a comme une hiérarchie dans la famille. Et la femme doit respecter cela. Et parce que beaucoup d'épouses n'ont pas respecté cette hiérarchie et parce qu'ils ont adopté l'esprit de ce monde, alors il y a divorce. Alors il y a séparation, alors il y a tension, alors il y a tous ces maux qui ravagent actuellement les foyers. Femme, tu as un rôle précis. Tu dois être soumise à ton mari. Mais cette soumission veut dire aussi autre chose. C'est donc respecter l'ordre divin, mais être soumise, cela veut dire aussi aider son mari. Pour beaucoup d'entre nous, quand nous lisons cela, ou surtout pour les épouses, être soumis, ça veut dire ne rien. Et nous voyons là une femme qui est complètement esclave et qui n'accomplit pas son rôle d'épouse devant Dieu. Genèse chapitre 2 nous dit que Dieu créa l'homme, l'Éternel vit que l'homme était seul. Il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et il lui fit une aide semblable à lui. Autrement dit, dans la soumission, il y a cette pensée d'aider son mari. Quand une femme se soumet, c'est comme si elle disait « Seigneur, oui, je suis soumise, je respecte l'ordre », mais ce n'est pas une soumission négative. C'est une soumission positive. Je me soumets pour aider mon mari, pour qu'il accomplisse son rôle parfaitement dans le foyer. Je veux être là pour dire, mon mari, je serai là avec toi. Il faut que tu saches, je suis ta femme et je veux t'aider à être l'homme que Dieu veut que tu sois dans le foyer. Et je veux que tu saches que je serai une femme comme cela. Je veux t'aider. Pas te critiquer. C'est là une faiblesse de beaucoup d'épouses qui constamment critiquent leur mari. Et laissez-moi vous dire une chose, je suis un homme. Quand ma femme prend ce chemin-là pour me faire la leçon, alors il y a quelque chose qui se bloque en moi. Et loin d'apprendre la leçon, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas de cette façon que l'on aide son mari, pas du tout. On aide son mari lorsqu'on lui dit, « Eh bien, je t'accepte tel que tu es et je veux tout faire pour t'aider, t'encourager. » Alléluia. J'avais lu une fois cette histoire, j'aime la dire maintenant, d'un jeune couple de serviteurs de Dieu. Ce serviteur de Dieu avait fait l'expérience de la puissance de Dieu dans sa vie et il appartenait à une église où on ne croyait pas à la puissance de Dieu. Et alors, Un jour, il a dû se présenter avec son épouse devant un groupe de serviteurs de Dieu, responsables de ce mouvement. Et on lui a dit, il faut que tu abandonnes un peu toutes ces choses que tu crois, car dans notre église, on ne croit pas ces choses. Ou tu abandonnes ces choses et tu restes avec nous, ou alors, si tu veux les garder, tu dois partir. Mais il faut que tu fasses un choix. Et lui, qui était tout jeune prédicateur et qui venait d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, il a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas renier ce que j'ai cru, ce que j'ai reçu, ce que j'ai expérimenté. Je ne peux pas. Alors les autres ont dit, eh bien, la porte est ouverte devant toi maintenant. À partir de cet instant, tu n'es plus des nôtres. C'était bien sûr un moment pénible pour ce prédicateur, n'est-ce pas? Un moment très difficile. Obéir à Dieu, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas vrai? Et il était brisé, brisé. Et alors qu'il sortait de cette salle, la tristesse dans son cœur, le brisement, son épouse, sa jeune épouse, a vu la douleur de son jeune mari. Elle a discerné quelque chose en lui, un combat, quelque chose de profond. Et elle s'est tournée vers lui en lui prenant la main et lui a dit, « Écoute, chérie, si certains hommes ne croient pas en toi ou en ton expérience, moi, je crois en toi. Si ces hommes t'abandonnent maintenant, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je te connais. Je sais que tu es droit. Je serai avec toi tout le temps. Sache une chose, si les autres t'abandonnent, moi, je suis avec toi. Je veux t'aider et je resterai à tes côtés jusqu'au bout. » Et savez-vous que cette jeune épouse a sauvé le ministère de ce prédicateur? Et ce prédicateur est devenu un des plus grands prédicateurs en Suède. C'est un homme qui a été l'instrument de milliers et de milliers de conversions. Mais à un moment donné, il avait besoin d'une femme, de sa femme, avec la bonne attitude. Et elle a sauvé le ministère de son mari. Épouse, laisse-moi vous dire une chose. Vous pouvez faire beaucoup de mal en étant négatif avec votre mari. Mais vous pouvez faire aussi beaucoup de bien. Alléluia. Vous pouvez transformer votre mari, tout simplement en lui disant, « Je reste avec toi, je suis avec toi, je veux t'aider. » Cela ne veut pas dire que vous acceptez le mal qu'il fait, pas du tout. Mais cela veut dire qu'en tant qu'épouse, vous êtes déterminée à l'aider, à l'aider. Et si vous êtes déterminée à l'aider, Dieu vous utilisera à dire parfois des paroles qui sont dures à entendre. Mais parce que votre mari sait que vous l'aimez et que vous dites ces choses pour l'aider, il acceptera ces paroles. Mais bien souvent, le mari n'accepte pas les paroles qu'une épouse lui dit parce que ce mari se sent rejeté. Et vos plus belles paroles positives n'auront aucun effet sur le cœur de votre mari si il ne sait pas que vous êtes avec lui, que vous l'avez accepté. Et que vous voulez l'aider à tout prix. Oh combien de foyers ont besoin d'épouses comme cela, n'est-ce pas? Femme, aide ton mari, aide-le. Abandonne la critique, aide-le. Dis-le-lui, je veux t'aider, je veux t'encourager. Et vous verrez des miracles se produire. Gloire au Seigneur. Allons un peu plus loin. Troisièmement, les époux doivent connaître la véritable signification de l'amour. Là aussi, c'est un point important. On pense qu'on sait ce qu'est l'amour. Mais comment cela se fait-il que deux personnes qui se sont aimées à la folie, un jour se tournent l'un contre l'autre, un jour se haïssent? Et pourtant, ils se sont aimés un jour, vous êtes d'accord avec moi? Ils se sont aimés un jour. Où est donc le nœud du problème? c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le véritable sens de l'amour. Quand on pense à l'amour aujourd'hui, on pense beaucoup à la sexualité. On pense aussi à un certain sentiment. On parle de coup de foudre. Et après les coups de foudre, c'est les coups de tonnerre. On a l'impression que l'amour, c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête comme cela. Alors ça vient, c'est venu comme... On ne sait pas comment c'est venu. Comme on ne sait pas comment l'amour est venu, on ne sait pas un jour comment l'amour est parti. On ne sait plus. Et c'est pourquoi des époux se disent, « Ah, mais maintenant, tu sais, on divorce. Parce que je ne sens plus d'amour pour toi. Je ne sens plus d'amour pour toi. Pourquoi encore rester ensemble? Je n'aime plus ma femme. Je n'aime plus ma femme. Pourquoi rester ensemble? Alors, comment avons-nous compris l'amour? On a compris l'amour comme un sentiment. Un sentiment. Bien sûr, dans l'amour, il y a du sentiment, c'est vrai. Mais l'amour n'est pas avant tout un sentiment. L'amour n'est pas avant tout la sexualité. Il y a le sexe, bien sûr, dans le véritable amour, dans le mariage. Mais il y a plus que cela. Le véritable amour est avant tout une décision de la volonté. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Le véritable amour, voyez-vous, n'est pas avant tout un sentiment, mais une décision de la volonté. C'est pourquoi, si nous prenons la décision d'aimer sa femme ou son mari tous les jours de sa vie, il n'y a plus de problème, vous pourrez toujours aimer votre femme et votre mari. Mais si vous avez fait de l'amour une question de sentiment, alors, il y a des jours, moi, j'ai pas le sentiment d'aimer ma femme, n'est-ce pas vrai? On n'a pas le sentiment, je veux dire que bon, on est là, tout ça, mais on ne peut pas dire qu'il y a toujours ces sentiments comme il y a des moments, voyez-vous, ça palpite en nous, ça boue, et puis il y a des jours où il n'y a rien du tout, vous êtes d'accord avec moi? Aussi bien le mari à l'égard de sa femme que la femme à l'égard de son mari, il y a ces moments extraordinaires où on sent les choses, mais il y a des jours où on ne sent rien du tout. Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas quelque chose que vous ne devez plus aimer votre femme ou votre mari. Et c'est là l'amour du monde, quand ils ne voient plus rien, quand ils ne sont plus dans cette surexcitation sentimentale et même sexuelle, alors ils disent maintenant, on ne s'aime plus, il faut qu'on se quitte. Alors quel est le véritable amour, mes chers amis? Quel est le véritable amour? Quel est le vrai sens de l'amour? Je vous donne un commandement nouveau. L'amour est une décision de la volonté. Je dois, lorsque je me marie, dire à ma femme, je décide de t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Non pas je t'aimerai, je reste avec toi tant que je t'aime, mais je décide de rester avec toi tous les jours de ma vie. Voilà ce qu'est le véritable amour. Est-ce que ton amour a diminué ces jours-ci? Est-ce que tu comptes trop sur tes sentiments? Commence à réaliser que l'amour est avant tout une décision. Dis, je décide d'aimer. Je veux continuer d'aimer, peu importe mes sentiments. Je veux aimer. Je t'aimerai jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Ça, c'est le véritable amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et dans le véritable amour, il y a aussi une deuxième pensée. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Dans l'amour, il y a toujours un esprit de sacrifice. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Dès que ça ne va pas, il ne faut surtout pas faire des sacrifices. Oh là là, vous pensez bien. Alors on parle d'incompatibilité. Oui, c'est un drôle de nom, une drôle de comptabilité, ça. On parle d'incompatibilité, maintenant on ne s'entend plus. Ça ne va plus entre nous. Pourquoi? Parce que finalement, on ne veut pas faire de sacrifice. Tant que tout va bien, tant qu'on a bien utilisé son conjoint comme un objet pour se satisfaire soi-même, ça va. Mais le jour où il faut se sacrifier, se donner soi-même, souffrir et même donner sa vie pour son conjoint, oh, il n'y a plus personne. Comment moi ? Donner ma vie pour ma femme ? Mais vous n'y êtes pas. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est cela. Un mari aime sa femme dans la mesure où il donne l'assurance à sa femme qu'il est prêt à mourir pour elle. Voilà le véritable amour. Croyez-vous qu'une femme aura de la peine à se soumettre à un mari qui est prêt à mourir pour elle ? Oh là là ! Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, chérie ? C'est pas possible. Comment, tu es prêt à mourir pour moi ? Oui. Oui, tu es ma femme. Pensez-vous que cette femme aura de la peine à se soumettre ? Non. Voyez-vous, la soumission de la femme est liée à l'amour d'un mari qui est prêt à se donner et à donner sa vie pour son épouse. Oh, que Dieu donne de tels fondements dans nos foyers. Amen. Alléluia. Ça, ce sont des foyers bâtis sur la croix de Jésus-Christ. Et là où il y a la croix de Jésus, il y a la puissance de la résurrection. Oh, gloire à Dieu. Oui, là où il y a la croix dans ton foyer, il y aura toujours une puissance qui ressuscitera ton foyer. Peu importe les difficultés, peu importe les combats, dans cette croix, dans la croix de Jésus, il y a la puissance de résurrection. Quand tout semble vain, il y aura tout à coup quelque chose qui redémarrera, qui repartira. Oh, gloire à Dieu. Et je termine maintenant. Une quatrième chose que les époux doivent connaître. Ils doivent apprendre à dialoguer. Ils doivent apprendre à dialoguer. Combien de conjoints ne dialoguent pratiquement pas ? Et les statistiques disent qu'un des problèmes majeurs dans les foyers et parmi les couples, c'est ce manque de dialogue. Ou un mauvais dialogue, ou pas de dialogue du tout. Et parce qu'il n'y a pas de dialogue, alors automatiquement, il n'y a pas de compréhension mutuelle, et c'est ensuite la séparation. Les époux doivent apprendre à dialoguer. Et peu d'époux ont ce dialogue réel et profond. Combien de familles souffrent dans ce domaine-là ? Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, que tout se fera toujours bien. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit, vous savez, dans son foyer, « Ouh, chez nous, c'est parfait. » Alors, je regarde avec des yeux comme ça, je me dis, « Ou cette personne ment, ou alors, c'est un des conjoints qui domine l'autre. » Alors, c'est pourquoi il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de dialogue. L'un a complètement dominé l'autre. Alors naturellement, il n'y a pas de problème. Chacun reste dans son coin. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de dialogue. Et à cause de cela, il y a de grandes, grandes souffrances. Nous devons apprendre à dialoguer. Et comment dialoguer ? J'ai noté ici quelques pensées. Il faut d'abord reconnaître qu'il existe ce problème. Tant que nous ne réalisons pas qu'il y a un problème de dialogue, alors ça n'ira pas. Il faut avoir cette humilité-là, de reconnaître que quelque chose ne va pas. Car tant qu'on ne le reconnaît pas, il n'y aura pas d'amélioration, n'est-ce pas vrai ? Autre chose encore que nous devons faire pour rétablir le dialogue, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Voilà pourquoi il n'y a pas de dialogue. L'un se sent rejeté par l'autre. Et vous savez, on peut soi-disant s'aimer et en même temps réaliser que notre conjoint nous rejette. C'est terrible cela. Et voilà pourquoi il n'y a pas de dialogue. On se sent rejeté. Ensuite, une autre étape. Il faut, une fois qu'on se sent accepté, il y a une troisième étape. On a alors la liberté de s'exprimer. Vous savez, quand on se sent accepté, à ce moment-là, on est libre pour parler. Parce qu'on sait que ce qu'on dira, eh bien, ne se retournera pas contre nous. On nous aimera quand même. Et c'est cela Il faut savoir pouvoir s'exprimer. Et dans un foyer, il faut faire cela. Si on ne peut plus s'exprimer, ce foyer n'est plus un foyer, mais c'est une prison. Il doit y avoir ce dialogue mutuel qui est très important. Ensuite, il faut savoir écouter pour comprendre. Il n'y a pas de dialogue bien souvent parce qu'on n'écoute pas l'autre pour comprendre la situation. On n'écoute pas. Et c'est là le problème de beaucoup de maris qui n'écoutent pas. Qui n'écoutent pas. Ou ils ne sont pas à la maison. Ou lorsqu'ils sont à la maison, ils écoutent la radio ou la télévision. Mais ils n'écoutent pas leur femme pour comprendre la situation. Ils n'écoutent pas. Le mari doit chercher à écouter pour comprendre. Que de mésententes, que de difficultés, que de suspicions. Parce que on écoute, mais on n'entend pas vraiment ce que l'autre a dit. On entend mal, on interprète mal. Et à cause de cela, il n'y a pas de dialogue. On se boude mutuellement et ça peut durer des années. Il faut savoir écouter pour comprendre l'autre. Vous savez, écouter quelqu'un, c'est vraiment aimer quelqu'un, n'est-ce pas vrai? Vous savez, c'est une expérience quand vous avez devant vous quelqu'un qui sait vraiment vous écouter. Qui écoute non pas pour dire, bon, quand tu auras fini de parler, ben, je parlerai. Mais qui écoute vraiment pour comprendre ce que vous voulez dire. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Savoir qu'on est écouté. Vous savez, voilà pourquoi certaines professions sont là. Ils se font beaucoup d'argent uniquement parce qu'ils écoutent les gens. Aujourd'hui, ces professions sont florissantes. Et leur seul travail, c'est d'écouter. Si les maris écoutaient plus leurs femmes, eh bien, il y aurait beaucoup plus d'économies à la maison. Écouter pour comprendre. Et ensuite, vivre dans la lumière. Le mari et femme doivent vivre dans la lumière. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir tout mettre à la lumière. Ne pas rester pendant des mois et des années même. Vivre côte à côte et cependant être encore. Se cacher quelque chose, cela est terrible. Et ensuite, lorsqu'il faut dire quelque chose, il faut le dire dans l'amour. Ah, mais je lui ai bien dit ce que j'avais à dire. Mais comment l'as-tu dit? Ce que tu dis doit être dit dans l'amour. Si tu ne le dis pas dans l'amour, alors garde-le pour toi. Dans le dialogue, il y a l'amour, mais dans l'amour dans la vérité et la vérité dans l'amour. Et pour terminer, pour avoir un bon dialogue entre époux, il faut que ces époux prient ensemble. Il faut que les époux aient un dialogue avec Dieu. Lorsque les époux ont ensemble un bon dialogue avec Dieu, ils auront un bon dialogue entre eux. Alléluia! Que les époux prient ensemble et des miracles se produiront. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes aussi. Les époux ne prient pas ensemble, très peu, très peu. Il y en a même qui ne prient jamais ensemble. C'est là la source de beaucoup de problèmes. Les époux qui prient ensemble resteront ensemble. Mais les époux qui ne prient pas ensemble ne resteront pas ensemble. Que Dieu donne ainsi à chacun des époux de mettre sa parole en pratique et de commencer, de finir tout dans la prière. Et tout doit être fait dans cet esprit de prière. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu se manifestera dans cette famille. Et cette famille sera aussi un exemple pour les autres, car il en faut aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Et les foyers chrétiens doivent être des exemples. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus et pour le bien d'un grand nombre de foyers. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire dans nos vies et dans ma vie, Seigneur. Mais nous voulons être obéissants à ta voix. Nous voulons, Seigneur, réparer ce qu'il faut réparer avant qu'il ne soit trop tard. Nous voulons faire ta volonté. Nous voici, Seigneur. Bénis chaque foyer ici présent. Que ta parole, Seigneur, touche le cœur des uns et des autres, et que chacun obéisse personnellement à ta voix, faisant ce que tu lui demandes. Et ainsi, chacun obéissant respectivement à Dieu, pourront se retrouver au pied de la croix, où Dieu pourra faire des miracles. Oui, Seigneur, nous croyons qu'un miracle est possible encore pour les foyers brisés aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ceux qui veulent t'obéir. Il y a une restauration possible. Il y a un bonheur possible. Oh, Seigneur, nous voici. Nous te livrons nos vies, même brisées. Tu es le Dieu de l'impossible. Fais comme tu le voudras dans nos vies, pour ta seule gloire et pour le bien de nos foyers. Amen.
Amen.
Amen.